très seul fait rappeler. لا شاء عليك بارك الله فيك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الله ما زلنا مع قراءة كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى مع شرح الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله نعم أخونا نعيم ذهب طيب إذن نحن في باب لعن الله من لعن والديه باب لعن الله من لعن والديه قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا أي نعم سمير
chapitre 8 الله مجيس celui qui مجيس ses parents أبو طفيل رضي الله عنه أبو طفيل رضي الله عنه أجي رضي الله عنه Est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous a fait part d'une chose uniquement à vous, sans en faire part aux autres? Il répondit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous confiait pas une chose sans qu'il en fasse part aux autres, excepté ce qui est écrit dans le fourreau de mon sable. Puis, il en sortit une petite feuille où était écrit, Allah maudit celui qui sacrifie pour autre que lui. Allah maudit celui qui vole les balises terrestres. Allah maudit celui qui maudit ses parents. Et Allah maudit celui qui assiste quelqu'un apportant une chose nouvelle dans la religion.
Donc on verra que certaines traductions seront à revoir, bi'idhnillah. certaines sont trop limitées, alors que le tafsir du hadith est plus vaste. D'ailleurs, comme les balises terrestres ou celui qui innove dans la religion. Naam, il en fait partie, mais pas seulement. Il n'y a pas que lui qui rentre dans le terme muhdith. Naam, ça n'a rien, inshallah. Il est taïb. Qala sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allah man saraqa manar al-ard. La'ana Allah man saraqa manar al-ard. Wa fi riwaya adhun la'ana Allah man ghayyara manar al-ard kama huwa mawjud fi kitab at-tawhid adhun hadha al-hadith. Wa saraqa qala al-shaykh ay ghayyara, na'am. Fi riwaya ghayyara. Wa saraqa fusira bi ghayyara. وكذلك هي بالتبديل وتغيير كما في رواية مسلم أي نعم رحمه الله. فمنار جمع منارة, منار جمع منارة, وهي علامة الأرض, علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. المنار جمع منارة بمعنى علامة, علامة الأرض التي تتميز بها حدود الأرض. طيب, إذن يجي للبروفيت صلى الله عليه وسلم الله أمودي. Donc on a dit qu'ici que toutes les phrases dans ce hadith, soit elles ont le sens de l'information, al-khabar, Allah أمودي, celui qui fait ceci et cela. Soit elle aura le sens également, et cela est juste, de dua, qu'Allah maudisse celui qui fait ceci et cela. Parce que lorsqu'on utilise al-madi, yani, dans la jumla, la'ana Allahu man fa'ala kaza wa kaza, il peut avoir ces deux sens-là. D'information, qu'Allah il a maudit un tel et un tel, mais il peut avoir le sens aussi d'invocation, dua. Ça y est, la'an Allah, yani, al-mushrikin, mathalan. Qu'Allah maudisse les mushrikin. Wa hakadha. Ça y est. Non. Donc, saraqa. Allah a maudit celui qui a volé. Saraqa, c'est volé. Mais ici, il a le sens, il a un sens plus général qui est la modification. Celui qui a modifié. Celui qui a changé. Voyez ? Et comme cela a été venu dans la narration, dans la version de Muslim. Dans la version de Muslim, il a été rapporté que le prophète a dit « La'an Allah man ghayyara manar al-ard » Celui qui a modifié. Et « al-manar » c'est le pluriel de « manara ». Al-manara, son pluriel c'est al-manar. C'est-à-dire, cela désigne alamatul ard. Alamatul ard. C'est vrai que les balises terrestres en font partie. Hein, les balises terrestres, c'est tout ce qui aide à se repérer, hein, sur la surface de la terre. Que ce soit des poteaux, des panneaux d'indication, etc., ça rentre dans les balises terrestres. En fait, une balise, c'est quoi une balise dans la langue française? C'est tout ce qui te sert à te guider. C'est une chose qui va te guider. Ça, c'est une balise. D'accord? Donc, c'est vrai que ça rentre dans le terme al-manar. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Non. Yani, la'ana Allah man saraqa manar al-ard. بمعنى معالم الأرض, معالم الأرض التي تفصل أرض فلان من أرض فلان. المعالم التي تفصل أرض فلان من أرض فلان, هذه أرض أرض عبد الله، وهذه أرض لمحمد، وبينهما معالم أي منار، علامات كما قال الشيخ، أو تفصل بين ملك فلان من ملك فلان، فإن من غيرها هذه الأمور وهذه الأشياء هذه المنار من أجل أن يعتدي على جاره مثلا، أو من أجل أن يعتدي على مشاركه في الملك ليحوز شيئا من الأرض بالحرام، ليأخذ ليحوز شيئا من الأرض بالحرام، وقد عرض نفسه لهذه العقوبة ألا وهي اللعنة، ألا وهي اللعنة، وهذا معروف، هذا معروف باب في باب الملكية وهكذا، ويكون في الأراضي الزراعية مثلا أو الأراضي السكنية. طيب donc pour que vous compreniez bien c'est quoi le manar, on peut dire que le manar ça indique les contours des terres, les contours, les tracés des territoires ou des terres qui appartiennent donc à des personnes yani privées ou un état, d'accord. Donc le manar c'est quoi? C'est tout ce qui va servir à délimiter et à tracer ce contour-là, et qui va donc différencier la terre d'un tel de la terre d'un tel. Ceci est ma terre, ceci est ta terre. Donc tous les signes qui vont justement délimiter ces deux terres-là rentrent dans le terme el-manar. Ça peut être des balises, ça peut être des barrières, des poteaux, n'importe quoi. D'accord ? Une ligne. Ça rend le manar. Ce qui va distinguer entre la propriété d'un tel et la propriété d'un tel. Donc celui qui modifie ces choses-là dans le but de s'accaparer la terre de son voisin ou la terre de son associé. Il est associé, Taïeb, et chacun a sa part. Toi, tu as 100 mètres carrés toi, et moi, j'ai 100 mètres carrés. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il prend yani, une partie de la terre de son voisin, de son associé. Bil haram. Alors qu'il n'a pas le droit de faire ça. Injustement. Eh bien, celui qui fait ça, il va exposer son âme au châtiment, ici, qui est al-la'na, la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est quoi la la'na d'Allah, ikhwa? Bilal?
C'est qala de l'un de sa miséricorde.
Ahsant. نعم الطرد والإبعاد على رحمته لفيك الله تبارك وتعالى للوان لإكسبولس دو سا رحمة أي نعم إسولا يعني سي سي سا ران دون لي لوا اي لي ريغل دو لا بروبريتي دي تيغ سوا دي تيغ أغريكول أو دي تيغ كونستركتيبل أو دي تيغ يعني ريزيدونسييل. Tout ça, ça rentre dans ce hadith-là. Vous voyez ? C'est bon, Fouad ?
Non,
c'est bon. Non. Thumma yaqul, la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Ay la'anan sarihan. Ou la'anan ghayra mubashir. Sawa'un la'ana huma. هو بلسانه نعوذ بالله من ذلك أو كان سببا في لعنهما أو كان سببا في لعن أبيه أو أمه من غيره كما سيأتي في الحديث إن شاء الله. Puis dit Allah a maudit celui qui a maudit ses parents. Donc il dit le cheikh, on avait dit que la malédiction, ça pouvait être une insulte, hein, de la part d'un être humain envers un autre être humain, la malédiction c'est quoi? Une insulte ou une dua contre lui. Le fait de faire une dua contre lui. Oh Allah, hein, fait qu'il lui arrive ceci et cela comme malheur. C'est une forme de la'a, comme ça. Ça, c'est une forme de la'a. Tu invoques contre un tel. Tu demandes à Allah qu'il fasse descendre sur lui un mal. Ça rentre dans la'a. Donc, que ce soit un la'a direct envers ses parents, a'oudhu billah, ou Allah, yani, maudit mon père, maudit ma mère, ou inflige-leur ceci et cela, qu'Allah nous en préserve. Ou une malédiction, un la'an indirect. Comment ça indirect? Il dit le shaykh. Donc, comme on a dit direct, c'est-à-dire avec ta propre langue, ou alors que tu sois la cause que quelqu'un d'autre maudisse tes parents ou insulte tes parents. Des fois on voit, il y a des frères, ils sont la cause que leurs parents sont insultés. Pourquoi? Parce qu'ils ont insulté les parents d'un tel. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il réplique. Il répond par la même insulte. Hein? Et Allah Musta'an, ça c'est connu, c'est fréquent. C'est fréquent ça. Chez les jeunes et chez les ignorants, Allah Musta'an. Donc la personne, elle a été la cause de ça. Donc elle rentrera dans le hadith également. Même si elle n'a pas maudit ses parents, directement, elle a été la cause. Et elle rentrera donc dans le hadith. Qui est la la'na d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma yaqul nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam la'na Allahu man awa muhditha. Qala shaykh, ay janiyan. أو مبتدعا جانيا أو مبتدعا فالمحدث من يأتي بفساد في الأرض هذا هو المحدث بمعناه العام من يأتي بفساد في الأرض ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به يكون معنى الإيواء الرضا بذلك الرجل بذلك المحدث ويكون المعنى أيضا الصبر عليه فإذا رضي الإنسان بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها على ذلك المحدث أو مبتدع فقد آواه ودخل في لعنة الله تبارك وتعالى سبحان الله فالمحدث المبتدع أو الجاني المبتدع أو الجاني puis dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah a maudit celui qui a agréé ou qui a toléré المحدث donc المحدث ce terme là il englobe comme ils ont traduit dans le livre bien sûr l'innovateur, Al-Mubtadi, mais il englobe également celui qui répand le désordre sur terre. Celui qui porte préjudice aux créatures sur terre. Que ce soit le voleur, le fornicateur, le semeur de troubles, hein, celui qui incite le peuple à se soulever contre les gouvernements, et qui les incite à sortir dans la rue manifester. Qu'Allah préserve les pays musulmans de ça. Tout cela rentre dans Al-Muhdith. Al-Muhdith. C'est-à-dire celui qui répand le désordre sur terre. Qui fait le désordre sur terre. Man yati bi fasadin fil ard. Et donc, Al-Iwa ici, il aura le sens de le fait de l'agréer, d'accepter ce qu'il fait, d'accepter bien sûr lui-même, mais également ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Et il a le sens également de la tolérance, de tolérer ce qu'il fait. Sabr alayhi. Hein? D'accepter ce qu'il fait et de le laisser faire.
C'est-à-dire quelqu'un qui va faire un soulèvement contre un dame et que au fond de lui il accepte, il tolère ça, c'est parti de lui.
Bien sûr. Bien sûr. Si au fond de lui il ne le déteste pas, il rentre dans le hadith. Il rentre dans le hadith. Non. Le minimum de l'iman, c'est de le détester avec son cœur. Même s'il ne parle pas avec sa langue, au moins qu'il le déteste avec son cœur. Ça y est ? Non. Donc si la personne, elle sait que c'est une bid'a, et elle ne réprouve pas la bid'a, au contraire, elle l'agrée, elle l'accepte, elle la tolère. Et elle tolère celui qui l'a faite. Il ne l'a pas désapprouvé. Il a certes fait du iwa. Il rentre dans le terme men awa muhdithan. Il a fait du iwa. Ça y est. Il y a plein d'exemples encore. Yani. C'est pas seulement l'obtadir. Hein. Ça peut être un criminel. Un criminel. Ça y est. Qui est recherché par le gouvernement. Et lui, il vient. Il dit viens chez moi, je vais te cacher. Où je vais te protéger, où je vais payer pour pas que le juge il te juge. Il rentre dans le hadith. Il rentre dans le hadith. Et non. Est-ce que c'est bon, Ikhwan? Taïeb. Ma yu'khadhu min al hadith. Awalan, bada'at mas'alatu tadwini sunna mubakkiran. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فائدة جميلة قال الشيخ بدأت مسألة تدوين السنة أي كتابة السنة مبكرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الصحيفة التي أخرجها علي من قراب سيفه يقول الشيخ رحمه الله تعالى ce qu'on tire du hadith le fait que l'écriture des hadiths, l'écriture des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a commencé très tôt. Elle a commencé déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, ce hadith. Le fait qu'Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un papier et il l'a mis dans son fourreau, dans le fourreau de son épée. Donc on voit que les sahabas ont déjà commencé à écrire les hadiths le Nabi sallallahu alayhi wa sallam très tôt. Thaniyan, hurmatu dhabhi li ghayri Allah ta'ala. Sawa'un akana dhabhu li sanam, ou li l'ka'ba, ou li l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou li l'wali, ou li ghayri dhalik. Deuxièmement, l'interdiction de sacrifier une bête pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. La'an Allah man dhabaha li ghayri Allah. Que la bête a été sacrifiée pour une idole ou pour la Kaaba ou pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour un wali hein, un saint ou autre chose que cela parmi les créatures. Thalithan hurmatu taghyir alamat al-ard wa min bab awla hurmatu ightisabha. Naam. Troisièmement, l'interdiction de modifier les contours des terres. De modifier les contours des terres ou les balises terrestres. Et j'ai oublié de le dire également, il y a des ulama qui ont fait rentrer le fait de, par exemple, tu as des panneaux qui indiquent la direction de tel ou tel endroit. Un panneau, il te dit, voilà, dans cette direction, vous vous rendez à telle ville. La personne, elle vient, elle change le panneau. Elle change le panneau et elle envoie les gens yani, vers l'autre côté. Il rentre dans le hadith, Allah Musta'an. Lui, il sème le désordre sur terre. Il égare les gens. D'ailleurs, donc il rentre dans le hadith, dans le la'an. Donc on voit que des fois les traductions sont trop restrictives. Elles sont trop restrictives. Et en même temps, je les comprends parce que pour traduire vraiment tout le sens du hadith, en fait, il faudrait qu'ils fassent un tafsir. Il faudrait qu'ils fassent un tafsir et qu'ils expliquent. Ou alors, qu'ils mettent 10 phrases pour expliquer une phrase. Ou plein de parenthèses et avec des flèches et des crochets. Mais sinon, c'est trop limité. C'est trop limité. Que dire alors du Coran? Que dire alors des essais de traduction de la parole d'Allah Tabarak wa Ta'ala? C'est encore pire. C'est encore pire. Donc en fait, lorsque tu lis les sens rapprochés des versets d'Allah Tabarak wa Ta'ala, tu es en train de lire un tafsir en fait. Tu es en train de lire un tafsir. D'accord? C'est pour ça que il faut que tu saches qui est-ce qui a traduit ou qui est-ce qui a écrit ces choses-là en français. Parce que la personne, lorsqu'elle a écrit en français, elle a fait un tafsir. Elle a écrit un tafsir. Donc si elle a une mauvaise croyance, elle va te faire un mauvais tafsir. Vous voyez? Et elle va égarer les gens comme ça. Non. Donc, l'interdiction de modifier les contours terrestres ou des terres et bien sûr de la même façon ou encore plus, encore pire, le fait d'extorquer ou de voler ou de prendre de force la terre de quelqu'un d'autre. Là, c'est encore pire. D'accord? Ou le fait de s'accaparer la terre ou une partie d'une terre sans droit, de manière injuste. Rabi'an, min 'uquq al-walidayn ta'ridhuhuma lis-sabb wal-ihanati min al-ghayr. Quatrièmement, fait partie de la malveillance ou de la malfaisance envers les deux parents, le fait d'être la cause que les autres les insultent. Le fait de les exposer aux insultes et aux rabaissements, mais venant des autres, pas de toi, mais tu as été la cause. Donc tu les as exposés à cela, et donc cela est interdit. Tout ce qui peut mener à ce que les gens insultent tes parents, c'est interdit. C'est interdit. Khamisan, ابطال ما تزعمه الرافضه من الوصيه لعلي رضي الله عنه فلم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم لآل البيت بشيء لم يعهد به لغير الآل من المسلمين. Cinquièmement, l'annulation de ce que prétendent al-Rafida. Al-Rafida. Qui ont prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait recommandé des choses à Ali ou à Al-Bayt. Donc Al-Bayt, il croit, ça englobe beaucoup de monde, hein, Al-Bayt. Et il y a beaucoup d'avis sur ça. Allahu alam al-rajih, c'est qui Al-Bayt? Lorsqu'on entend Al-Bayt, qui est-ce? Al-Bayt, al-rajih, hum أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أولا les épouses du prophète صلى الله عليه وسلم وذريته ses enfants ثم بنو هاشم بنو هاشم les descendants de هاشم ثم بنو مطلب les descendants de مطلب ومواليهم ils ont ajouté également tous ceux qui travaillent pour eux, leurs servants. D'accord? Donc Al-Bayt من أزواجه ذريته بنو هاشم بنو مطالب ومواليهم. طيب نعم mais cela est faux, c'est-à-dire que le Rafida il prétend que le prophète صلى الله عليه وسلم aurait recommandé à Al-Bayt des choses qu'il n'a pas recommandé aux musulmans, aux autres musulmans. Cela est complètement faux. La preuve, la parole d'Ali, il a dit non, il nous a rien dit ou transmis une chose qu'il n'a pas transmise aux autres. La preuve, ce hadith-là réfute la parole des Rafida. Sadisan, man tasabbaba fi fi'lin kana ka fa'ilihi khayran aw sharran. Sixièmement, celui qui a été la cause, qui a provoqué une chose, eh bien, il est comme celui qui a fait la chose. Que ce soit un bien ou un mal. Donc, s'il a été la cause d'un bien, c'est comme s'il avait fait le bien lui-même. Il a la même récompense, je crois. Celui qui a été la cause d'un bien, qui a indiqué un bien, il a la même récompense que celui qui l'a faite. Sans que celui qui l'a faite voit sa récompense diminuer. Mais également, celui qui a été la cause d'un mal, il est comme celui qui a fait ce mal. Il emportera aussi le péché. C'est lui qui a été la cause. C'est pour ça qu'il a dit ici, « La'ana Allah man la'ana walidayhi, imma sarihan, imma ghayr mubasha. » Soit directement, soit indirectement. Dans tous les cas, il a été la cause de ce mal. « Sabi'an hurmatu himayati al-khurafiyin wal-mubtadi'in wa hurmatu adab al-inkari ala ihdathihim fid-din. » Septièmement, l'interdiction de protéger, de tolérer al-khurafiyin, les affabulateurs, les menteurs, ceux qui ramènent yani, des histoires fausses et qui font croire que cela fait partie de la religion, les conteurs de légendes et d'histoires. Al-khurafiyoun. Et al-mubtadi'oun, bien sûr, et les innovateurs, de manière générale. Donc celui qui fait ça, il rentre dans le hadith. Il rentre dans la malédiction d'Allah tabarak wa ta'ala. Et l'interdiction également de ne pas les désapprouver. Et de ne pas désapprouver l'innovation ou les innovations qu'ils font. Tu te dois de ne pas les préserver, les protéger, les tolérer, et tu dois aussi le désapprouver avec ton cœur, minimum. Et si tu peux, avec ta langue, et si tu peux, avec ta main. C'est bon, je crois. طيب الباب التاسع الباب التاسع يقول باب يبر والديه ما لم يكن معصية باب يبر والديه ما لم يكن معصية قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك ابن الخطاب ابن عبيد الله ابن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنت وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل نعم سمير
on agit avec bonté avec ses parents tant qu'ils n'ont pas de désobéissance à Allah. Selon Umm Darda, Abu Darda, radiallahu anhu, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me recommanda 9 choses. N'associe rien à Allah, même si on doit te couper ou te brûler. Ne délaisse pas volontairement la prière obligatoire, car celui qui la délaisse volontairement ne bénéficie plus de protection. Ne bois pas de vin, d'alcool, car c'est la clé de tous les maux. Obéis à tes parents, et même s'ils t'ordonnent de leur donner tout ce que tu possèdes, alors donne-leur. Ne querelle pas les détenteurs de l'autorité, même si tu considères que tu pourrais y être apte. Ne fuis pas lors de la rencontre avec l'ennemi, même si tu cours à ton péril ou que tes compagnons fuient. Dépense de ton surplus pour ta famille. Ne brandis pas le bâton contre ta famille. Plutôt, fais-leur craindre Allah Azzawajal.
Non. Voilà, fin, il est à revoir par rapport au bâton. يقول الشيخ درجة الحديث حسن. هذا الحديث في إسناده شهر ابن حوشب وهو ضعيف، والحديث قد يتقوى، الحديث ضعيف لكن يتقوى بطرقه، ولكنه بهذا الإسناد ضعيف، لأن الحديث أخرجه أيضا اللالكائي في شرح وصول الاعتقاد، وأخرج جزءا منه ابن ماجة في الفتن، وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، ويشهد له حديث معاذ عند أحمد، وحديث أم أيمن عند عبدي ابن حميد. قوله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. كل أحاديث الباب مقيدة بهذا القيد، ما لم يكن معصية، هذا تقيد واجب لا بد منه، ما لم يكن معصية. فالبر في المعروف فقط. أنا دونك حديث خوي لحسن، إلى حسن الحمد لله، وان peut dire également il est حسن لغيره، حسن لغيره. Pourquoi? Parce qu'à la base il est ضعيف. Si on prend que cette narration là, le hadith il est ضعيف. Mais il dit le Cheikh, à cause d'un des rapporteurs qui est Shahru ibn Hawshab. Mais le hadith, il va monter d'un degré. Il va passer de Da'if au degré de Hassan, li ghayrihi. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres chaînes de narration qui vont venir le renforcer, qui ramènent exactement la même information, les mêmes paroles. Donc du coup, les uns et les autres, ils vont se renforcer. Ça c'est vraiment de manière brève, c'est pas tous les hadiths comme ça, mais celui-là il a été renforcé. Il y a même Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala qui l'a rendu authentique, hein, l'imam Al-Albani rahimahullah fil irwa. D'ailleurs Al-Muhim il dit ici, donc le chapitre yabarru walidayhi ma lam yakum ma'siyah. La personne, elle est bienveillante, bienfaisante, obéissante envers ses deux parents tant que il ne lui ordonne pas de commettre un péché. Tant que ce n'est pas un péché. Ma lam yakun ma'siyatan. Donc vous remarquerez que tous les ahadiths concernant l'obéissance à une créature, forcément cette obéissance-là sera restreinte et limitée à une chose qui n'est pas un péché, à une chose qui n'est pas de l'ordre du péché vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc el birru, l'obéissance, la bonté, la bienveillance ne peut se faire que fil ma'rouf, que dans le convenable ou dans ce qui n'est pas un péché ou une désobéissance à Allah tabarak. إذن المخلوق سواء الوالدان أو ولي الأمر أو أقرب الناس إليك أو أبعدهم منك لا يطاع في المعصية، لا يطاع في المعصية أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال أيضا: إنما طاعة في المعروف. ولذلك وجب التقيد بذلك، هذا واجب، أن يبر الإنسان والديه في المعروف، وإن أمراه بمعصية قولية أو فعلية أو ظاهرة أو باطنة فلا طاعة لهما. لا طاعة لهما في ذلك، في ذلك الشيء فقط. أه؟ وليس من برهما ذلك، بل مخالفتهما في المعصية لا يعتبر عقوقا، بل إنما إرضاء لله عز وجل وتقديما لأوامر الله ونواهي على تقديم أو على أوامر الخلق ونواهيهم ومطالبهم ومطالبهم في كل شيء، لأن شرع الله معصوم، شرع الله مقدم على كل حال. طيب donc les créatures quelles qu'elles soient, toutes les créatures, pas seulement les parents, mais le gouverneur, le président, le roi, ton frère, les gens les plus proches de toi ou les gens les plus éloignés de toi, tu n'as pas le droit de leur obéir si cela t'amène à faire un péché. Taïeb, qui qu'il soit, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. C'est clair. Il dit également, sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance ne se fait que dans le convenable, al-ma'ruf. C'est pour ça qu'il est obligatoire de spécifier et de restreindre à chaque fois en disant que l'obéissance à la créature ne peut se faire que dans al-ma'ruf. Que dans al-ma'ruf. Donc si tes parents t'ordonnent de faire un péché, hein, eh bien, ici, l'obéissance à tes parents sera interdite. Mais dans ce péché seulement, ça ne veut pas dire que le reste, tu n'obéis plus. Non, tu n'obéis pas dans ce péché, dans cette chose-là. Mais s'ils te demandent autre chose qui est permise, tu dois leur obéir. C'est comme pour le gouverneur, c'est pareil. Certains disent, ouais, mais le gouverneur, yani, il nous a ordonné de faire du haram. Et du coup, yani, ils sont sortis totalement de l'obéissance au gouverneur. Non, c'est pas comme ça. Tu n'obéis pas dans cette chose-là qu'il t'a demandé ou qu'il t'a ordonné, mais le reste, tu obéis. Le reste, tu obéis. Tu n'as pas le droit de sortir contre lui. Tu n'as pas le droit de te rebeller, de te révolter contre lui. Et d'ailleurs, Yanni, ça rentre dans le hadith qu'on est en train d'étudier en plus, subhanallah. D'ailleurs. Et donc, le fait de ne pas leur obéir à ce moment-là, ça ne rend pas de l'uqour. Tu ne dis pas, yani, subhanallah, j'ai désobéi à mes parents, j'ai fait preuve de uqour, j'ai été malveillant envers eux. Là, au contraire. Le fait de ne pas avoir obéi à tes parents dans ce cas-là, lorsqu'ils t'ont demandé de faire un haram, yani, au contraire, c'est une façon de satisfaire Allah tabarak wa ta'ala. Et une façon de mettre en avant et en priorité les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala avant les ordres et les interdits des créatures, quelles qu'elles soient. Voyez, car la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle passe avant tout. C'est compris, les frères? Donc il faut ce taqayyud. إنما طاعة في المعروف. Ça c'est un taqayyud. La ta'ata li makhlouf et ma'sati al-khalq. Ça c'est taqayyud. Restriction. D'accord. ثم يقول رجال الإسناد. محمد ابن عبد العزيز هو ابن الواسطي وثقه العجري. عبد المالك بن الخطاب ابن عبيد الله قال يعقوب ابن سفيان كان حافظا. Donc le premier rapporteur, Mohammed ibn Abdul Aziz ibn al-Wasiti, c'est un rapporteur fiable, alhamdulillah. Puis on a Abdul Malik ibn Khattab ibn Ubayd Allah. Il dit Yaqub ibn Sufyan, c'est cette personne, elle est hafid. Et les frères, lorsque les savants du hadith disent d'un tel il est hafid, ça veut dire quoi? Hein? Ahsant. Quand un savant du hadith, dans le jargon du hadith, Hada hafiz, ça veut dire qu'il a mémorisé 100 000 hadiths. 100 000 hadiths. Mais ce n'est pas seulement le hadith, mais le hadith avec sa chaîne de transmission. Qala fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an il nabi sallallahu alayhi wa sallam. 100 000. راشد أبو محمد هو ابن نجيح الحماني صالح الحديث. puis on a Rachid ibn Abu Muhammad. Donc là il dit ici صالح الحديث. Là du coup c'est pas du tout le même degré. C'est pas du tout le même degré. On a حافظ, on a ثقة, on a ثقة ثقة, on a مقبول صدوق. Et là on a صالح الحديث. Et صالح الحديث c'est un degré yani, qui est assez bas dans les rapporteurs de hadith. Certains disent qu'on va prendre de lui que pour confirmer un hadith qui est authentique. Lui, mashallah, il est fort, il est authentique. On va prendre de lui si ça va dans le sens du hadith. Donc ça va servir à, plutôt à fortifier le hadith. Mbab taqwiya. Puis on a Shahri ibn Hawshab qui était donc le serviteur de Asma bint Yazid. Asma bint Yazid radiyallahu anha. Idhan ma'ani al-kalimat, ma'ani al-kalimat, al-ramla, al-ramla hiya baladun bishan. Donc al-ramla, ikhwa, c'est dans le hadith, il dit Man, Abdul Malik, il dit j'ai rencontré, ou plutôt, c'est Muhammad ibn Abdul Aziz qui dit j'ai rencontré Abdul Malik ibn al-Khattab à Ar-Ramla. Donc Ar-Ramla, en français, on dit vous connaissez, c'est pas possible.
C'est Ramallah.
Ramallah. C'est où Ramallah? Hein? C'est en Syrie? Là. Palestine, c'est la capitale de la Palestine, je crois. C'est la capitale administrative de la Palestine. Subhanallah. Hein? Et tout le temps là, la Palestine, on ne connaît même pas la capitale. La ilaha illallah. Ramla, Ramallah. C'est connu, Ramallah.
Cisjordanie.
La Palestine, en tous les cas, la Palestine, ça englobe tout le territoire. Mais ça appartient aux musulmans. Ça appartient aux musulmans. Non. Ça appartient aux musulmans, Ramallah. Oui. Et Ramallah, hein? Ramallah, souvent, ils écrivent avec deux L. On dirait Ramallah, il y a Ramallah. Là. Ramallah, il y a qu'un L. En arabe, on dit Ramla. Ramla. C'est pas. Yani, il n'y a pas l'offre de là, là-dedans.
Le sable.
Hein? Ramla, le sable. Ça vient de là, ça vient de là. Non. Ça vient de là. Allahu a'lam, ça vient de là.
Là, c'est
la raison.
T'as
vu? C'est ça, hein? Non. Al-Muhim. Il dit donc, je l'ai rencontré à Ramla. Mais bien sûr, Hachem, ça englobe tout ça, Hachem. La région du Shem, ça englobe tous ces pays-là, rentre dans la Syrie, etc. Qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, la tushrik billahi shay'an, wa in qutti'ta aw hurriqt. At-tad'if li takthir. At-tad'if li takthir. At-tad'if, huna bima'na at-tashdid. Qutti'ta, qatta'a, wa harraqa. Qutti'ta, حرقت أي وإن تعرضت للقتل أو التحريق. Donc, il dit au début du hadith, Abu Darda dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé 9 choses. 9 choses ici. La première, il lui a dit, n'associe rien à Allah tabarak wa ta'ala. Même si on te découpe et on te brûle. Même si on te découpe ou on te brûle. Et en plus là, il n'a pas dit qutita wa uhriqta. Il a dit qutita wa uhriqta. Et dans la langue arabe, lorsqu'on a ce la shadda là au milieu du verbe, donc qutita uhriqa, ça indique et takfir, l'excès. C'est-à-dire même si on te découpe beaucoup, même si on te brûle beaucoup. Donc ça peut être plusieurs fois, ça peut être à plein d'endroits, il y en a de son corps. Hein? Donc là, il a vraiment insisté, là, subhanallah, sur l'interdiction de shirk. Donc, hurriqta, qutta'ta, c'est-à-dire même si on te tue, même si on devait te découper, te tuer, et hurriqta, même si on devait te brûler. Na'oudhu billahi min dhalik. ثم يقول ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة أي ترك الصلاة المكتوبة البراءة التفصي مما تكره مجاورته البراءة التفصي مما تكره مجاورته برئت منه الذمة ما معنى ذلك؟ برئت منه الذمة أي لا يبقى في أمن من الله الحمد لله كما ترجموا لا يبقى في أمن من الله تبارك وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة كناية عن سقوطه عن سقوط أمن الله تبارك وتعالى له puis dit donc Après la première recommandation, la deuxième, c'est quoi qui vient juste après, subhanallah, as-salat, la prière. Juste après la recommandation et l'interdiction du shirk, même si on te tue, même si on te brûle, l'interdiction de délaisser volontairement la prière obligatoire. Les cinq prières obligatoires. Puis il dit, celui qui les délaisse, Bari'at minu dhimma. Ça veut dire quoi? Déjà, Bari'a, yani, on a le terme Al-Bara'a. Al-Bara'a, souvent qu'on traduit par le désaveu Al-Bara'a. Mais Al-Bara'a dans la langue arabe, c'est At-Tafassi et At-Takhallus. Le fait de se débarrasser de quelque chose que tu n'aimes pas. Le fait de se débarrasser de quelque chose. Que tu n'aimes pas la proximité, tu t'en débarrasses. Hein, les gens se débarrassent par exemple des objets anciens qu'ils ont. Ils ont fait du bara'a. Ils s'en sont débarrassés. Ça ressemble un peu, débarrasser, bara'a. Vous savez qu'il y a plein de mots dans la langue française qui sont tirés de l'arabe. Énormément, énormément. Il y en a vraiment beaucoup. Hein?
Une dernière fois, c'était
douane. Douane ? La douane ? Et où ? Diwane ? Ah, diwane, yani, la douane, elle écrit les. Subhanallah, Allah Akbar. Non. La douane. Min diwane.
La
diwane, yani. Yaktoubouna. Le bada'i. Il y en a plein, quoi. Il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Il y a ceux qui sont très connus, hein, Tabib, Toubib, etc.
Safari.
Hein?
Safari.
Safari. Safari. Le Kitman. C'est quoi le Kitman? Le secret, le cacher quelque chose. Hein? Eux, ils disent en catimini. En catimini. Quand tu fais quelque chose en catimini, ça en cachette. Le Kitman. Il y a plein, quoi. Ah, viens, ils te font les. Hein? Donc, bari'at minhu dhimma. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui délaisse les cinq prières obligatoires, eh bien, il ne sera plus dans la sécurité, celle qui vient d'Allah tabarak wa ta'ala. il va sortir, il va se débarrasser, entre guillemets, de la sécurité d'Allah tabarak wa ta'ala. Fi dunya wal akhirah. Donc celui qui délaisse la prière obligatoire, Allah tabarak wa ta'ala ne le protège plus. Ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Ça y est ? Donc, yani, al-bari'at minhu dhimma, c'est-à-dire que c'est comme s'il se débarrassait de la protection d'Allah. Allah musta'an. Adana.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله
طيب ثم يقول ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. Puis il dit la troisième recommandation, et ne consomme pas l'alcool, le vin ou tout ce qui est enivre, car cela est la clé de tout mal. وأطيع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فخرج لهما. Puis il dit et obéis à tes parents, et s'ils t'ordonnent, même s'ils t'ordonnent d'abandonner et de délaisser ta dunya, c'est-à-dire tes épouses, tes biens, ton argent pour eux, fais-le. Fais-le. Mais encore une fois, ikhwa, nuqayyid, fil ma'rouf, à condition que ça reste dans le convenable. Ça veut dire que s'ils t'ordonnent quelque chose qui va te nuire, ils n'ont pas le droit de t'ordonner quelque chose qui va te porter préjudice, qui va te faire du mal. Dans ce cas-là, tu n'as pas à leur obéir. D'accord ? Donc ça, c'était la quatrième. Khamisan. Wa la tunazi'anna wa la tal'amr. وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ سبحان الله قال الشيخ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ أي وَإِنْ اعتقدت في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الحق لا تأخذه هكذا بالقوة بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة illa an tara kufran bawahan illa an tara kufran bawahan wa hatta law tara kufran law annaka tara kufran bawahan fa hunak shurut kadhalik hatta ba'da dhalika shurut. Puis il y a la cinquième recommandation, et ne dispute pas la gouvernance du gouverneur. Même si tu penses que tu es plus apte que lui. Ou même si tu penses que tu es plus en droit que lui d'être le gouverneur. Le roi ou le dirigeant ou je ne sais quoi. Ou le président. Hein? Même si tu penses qu'il est plus apte à gouverner. Et que toi, tu es jeune, tu es fort, machallah, tu es intelligent, tu es plus apte que lui. Lui, il n'est jamais là. Il est je ne sais pas où, il est en soins intensifs. Hein? Shafahullah wa afahu. Même si tu penses ça, il dit, le prophète, وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ. Même si tu penses que tu es plus apte que lui, et plus en droit que lui de gouverner, eh bien non, tu n'as pas le droit de sortir contre lui. Au contraire, اسمع واطيع. Écoute et obéis. Et toujours pareil, les gars. Fais le ma'ruf, toujours. Jusqu'à que bi'idhnillah azza wa jal, Allah tabarak wa ta'ala, il fasse que yani, le gouvernement, inshallah, il vienne à toi sans que tu aies sorti ou sans que tu sois sorti contre lui. Puis il dit à la fin, illa intara kufran bawahan. Sauf si tu vois une mécréance du kufr manifeste, claire, visible. Dans ce cas-là, peut-être c'est permis de sortir contre lui. Et encore, il y a des conditions. Parmi ces conditions-là, que cela ne cause pas un mal sur la population. Si tu sais qu'en sortant, il va y avoir des morts, des blessés, des maisons détruites, des femmes agressées, des enfants tués, tu ne sors pas. Là, il y a tout. Comment ? Subhanallah. Et comment tu veux sortir alors que déjà, ta relation avec Allah, tabarak wa ta'ala, elle est catastrophique. Et tu veux sortir contre une armée, contre un pays. Subhanallah. Réforme-toi d'abord. Réforme ta maison. Réforme ton épouse, tes enfants. Toi qui prétends que le gouverneur, le président n'applique pas la charia. Est-ce que chez toi il y a la charia? Est-ce que chez toi tu l'as appliqué la charia? Hein? Parce que le fait de gouverner ou de juger par une loi autre que celle d'Allah, c'est pas seulement le gouverneur, ça ne concerne pas que le gouverneur, ça concerne tout le monde. Est-ce que chez toi tu as jugé avec la loi d'Allah? Est-ce que chez toi tu as interdit ce qu'Allah il a interdit? Est-ce que tu as rendu obligatoire ce qu'Allah il a rendu obligatoire chez toi? Oh, subhanallah. Le père, il est chez lui. Les enfants, ils font le haram chez lui, il dit rien. Ils font le haram chez lui, il dit rien. Les films, la télé, la musique. Des fois pire, la cigarette. Il ramène l'argent de la drogue à la maison, il dit rien. La fille, elle sort, elle n'a pas le hijab, il dit rien. Et on n'a pas dit de séquestrer ou là de frapper ou les enfants. Mais au moins qu'ils leur interdisent cela. Ya binti. La takhrouja hakada. Sors pas comme ça. Hitajbi. Mais hijab, mais. Ça, il le fait même pas. Après, il est là. L'après-midi, tu le vois au café. Ah, tu as vu le président Foulen. La Moustaan, c'est des corrompus. Les généraux, la corruption, la ci, la ça. Subhanallah. Sharia. Sharia d'abord chez toi d'abord. Après tu penses yani, à une échelle un peu plus grande yani. Après département, la région. Et le mec déjà il veut le pays direct. C'est bon, y'a quoi? Ouais. الحمد لله نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونواصل بعون الله عز وجل الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.